France Inter.
France Inter. Le 18-20. Fabienne Sintès.
C'est le réflexe naturel que nous avons, nous les sans-grades. Que faire quand on est choqué, quand on se sent démuni? Que faire si on considère que l'attitude américaine en ce moment vis-à-vis de l'Ukraine, mais pas seulement, est contraire à nos valeurs? Boycotter parce qu'on a que ça entre les mains, ce sont les Canadiens qui ont commencé en disant « lisez bien les étiquettes ». Produits canadiens. Les Scandinaves ont embrayé, il y a même une grosse entreprise suédoise qui refuse désormais de fournir en fuel les navires de guerre américains. C'est peut-être aussi votre réflexe dire non, changer votre marque de céréales, marque de soda, voire de whisky, de déserter les grandes chaînes de fast-food. De fast-food, c'est là que ça devient compliqué quand même, parce que le fast-food va chercher sa viande chez nos agriculteurs. La boisson gazeuse est embouteillée en France, même la lessive d'une marque américaine est produite chez nous. On ne mettra pas l'économie américaine à terre, mais est-ce qu'au moins le symbole fonctionne. Souvenez-vous que pendant la guerre du Golfe, en 2003, les Américains voulaient supprimer tout ce qui est français. Et à la fin, on se souvient simplement que les French Fries avaient été rebaptisés Liberty Fries, la belle affaire. Les Américains quand même étaient moins nombreux en France, moins 18,3%. Alors est-ce que c'est dans cette direction-là que ça a du sens? Aller en vacances au Canada, tiens, pourquoi pas, plutôt que chez les voisins du dessous? Bouder Airbnb, arrêter de commander sur Amazon, quitter Netflix, changer de boîte mail, de moteur de recherche, de boîte de chaussures de sport, d'ordinateur. Quand on parle de nous et des États-Unis, on parle non seulement d'économie hyper connectée, mais aussi de mode de vie. Et soyons honnêtes, c'est difficile d'en changer. L'ironie, c'est que pour fédérer les volontaires au boycott, des groupes se forment sur Facebook. On l'a entendu ce matin avec une initiative dont nous avons fait l'écho. Facebook est son propriétaire fondateur, donc il refuse désormais de modérer ses propos et pense qu'un peu d'agressivité et de masculinité n'a jamais fait de mal à personne. Rien n'est simple, rien n'est binaire, mais si on fait quand même défiler la page de ce monsieur qui appelle au boycott, vous êtes très nombreux à poser des questions sur les marques, les moteurs de recherche, les alternatives possibles pour qu'on ne se tire pas une balle dans le pied. Ça veut dire que le symbole, quand même, visiblement, pour vous, ça compte. Et c'est le téléphone sonne, soyez les bienvenus.
Le téléphone sonne. 01 45 24 7000.
Romain, vous êtes le premier, vous êtes le bienvenu, bonsoir.
Bonsoir.
On vous écoute, Romain.
Eh bien écoutez, moi j'ai vécu un peu plus de 2 ans au Canada, j'allais souvent le week-end aux États-Unis, c'est des gens formidables, j'ai des excellents souvenirs. Et pour moi, il y a encore une semaine, c'était juste inconcevable de boycotter un produit américain. Pour nous, c'était nos amis. Et là, aujourd'hui, j'en suis à me poser la question pour ma voiture qui est une Tesla. J'essaye, en tout cas avec mes amis, de passer de WhatsApp à des réseaux sociaux comme Signal, comme Telegram. Et en fait, j'ai du mal à comprendre qu'en une semaine, on ait pu voir nos amis changer à ce point-là. Et ça m'attriste, tout simplement.
Eh ben merci Romain pour cette entrée en matière, merci pour votre témoignage. Pour discuter ensemble jusqu'à 20h autour de la table, il y a Dominique Carlac, bonsoir.
Bonsoir.
Carlac d'ailleurs, je ne me trompe
oui,
pas, très bien. Vous êtes présidente d'IE Consultant, vous êtes membre du conseil exécutif national du MEDEF. Il y a Philippe Trénard qui est là également,
bonsoir.
Vous êtes membre du cercle des économistes, président de la fondation SCORE pour la science. Ce que je trouve intéressant, et je pense qu'on va le retrouver chez chacun de nos auditeurs, on va commencer avec vous Dominique Carlac, c'est que tout le monde a bien conscience que personne ne mettra les économie américaine à terre, hein. Personne ne dit des choses pareilles, mais c'est comme si on avait besoin du symbole en fait, c'est ce que je disais en introduction, le seul symbole qu'on a finalement c'est celui-là.
Oui, parce que le mot boycott est très fort, il y a eu le boycott des Jeux Olympiques en 80, en 84, ça avait une dimension planétaire, le mot boycott c'est vraiment tout de suite, c'est un non massif en fait. Mais la réalité, pour le quotidien des gens, hein, qu'ils soient travailleurs ou qu'ils soient consommateurs, c'est très différent. C'est quand même une pratique assez courante, hein, cette pratique du boycott. Les pays du Nord l'ont initié les premiers.
C'est dans leur culture.
Avec les marées noires, on se souvient, dans les années 70 et puis après dans les années 80. En France, ça n'a jamais véritablement marché. Pourquoi ? Parce que probablement que les consommateurs ne sont pas aussi bien organisés en fait, que dans les pays du Nord. Donc, les contre-pouvoirs liés aux consommateurs ne sont pas bien organisés. Ce qui est difficile aujourd'hui, hein, en 2025, sur le phénomène de boycott, c'est que l'économie américaine et l'économie européenne sont les plus interdépendantes du monde. C'est-à-dire qu'il n'y a plus possibilité de trouver des produits 100% américains ou 100% européens. sans pénaliser l'autre. Donc si on se dit que on va attaquer des produits qui sont un petit peu emblématiques, que sont les sodas, que sont l'agroalimentaire ou les lessives, en réalité, les sodas, vous l'avez rappelé dans votre introduction, ils sont embouteillés en France.
Il y en a 5, hein, des usines d'embouteillage en France pour la boisson
qu'on a en tête. Si vous prenez le fleuron de la biscuiterie française qui est Lus, c'est détenu par une entreprise Mondelez. Américaine, on ne va pas du jour au lendemain ne plus manger de petits de figolus ou de paille d'or. Voilà. Donc, et de la même manière, l'auditeur qui a commencé à prendre la parole nous parlait de Tesla. Ouais. C'est vrai qu'on peut évidemment soutenir que Tesla égale Elon Musk égale Trump. Et on a vu les Tesla les ventes de Tesla baisser drastiquement. Mais il faut quand même bien savoir que les Tesla sont certes fabriquées aux États-Unis, mais elles sont aussi fabriquées en Chine et elles sont fabriquées aussi en Europe. Donc est-ce que si on n'achète plus de Tesla, on pénalise l'ouvrier allemand? C'est une question qui doit se poser.
Est-ce que, Philippe Trénard, même si on cible, donc ça n'a pas de sens, selon vous, le boycott, ça n'a pas de... est-ce que ça n'a d'intérêt que pour nous-mêmes, au fond, la satisfaction
C'est un petit peu cela. Alors, il faut se poser la question, c'est quoi un boycott, quand même, au départ? Parce que un boycott, c'est pas une sanction financière. C'est d'abord, j'achète pas vos produits, donc c'est commercial. Le deuxième point, vous avez deux types de boycott. Vous avez un boycott d'État. Je peux interdire les produits américains, voire mettre des droits de douane très élevés sur les produits américains pour pas qu'ils rentrent en France. C'est une forme de boycott, ou je peux laisser les consommateurs s'organiser eux-mêmes. Je crois que les consommateurs, ils font ce qu'ils voudront là-dedans, et de tout temps, les consommateurs, s'ils n'aiment pas un pays, s'ils n'aiment pas une politique, n'achètent pas ce produit, et puis c'est tout. Et ça, d'ailleurs, on pourra faire ce qu'on voudra, ça changera pas. Je ne suis pas sûr que j'appellerai moi des consommateurs au boycott, mais je ne suis pas sûr que ça changera grand-chose. Inversement, la question est donc celui d'un boycott plus officiel, un boycott public décidé par les gouvernements. Et je pense que là, on a un vrai problème, parce que c'est ce que vous le dites, c'est ce que vous dites. Quel serait l'objectif? Ben, on ne voit pas exactement ce que serait l'objectif. Il ne s'agit pas d'arrêter une guerre, il ne s'agit pas de droits de l'homme, il s'agit au fond d'essayer d'induire soit un
Il s'agit de lancer un message, en fait, et de se dire que quand on est, comme tous les auditeurs qui nous appellent, on va voir Daniel dans un instant, moi qui suis lambda et qui ai besoin de dire, il y a quelque chose qui ne me va pas, c'est tout ce que j'ai entre les mains. C'est ça qu'ils sont en train de dire.
Oui, vous pouvez le dire, mais vous pouvez le dire aussi sur les réseaux sociaux en prenant parti.
Qui sont américains. Dominique Carlac.
Mais entre le boycott et la diplomatie économique et au milieu des sanctions, on peut aussi choisir. Je relève que boycott, c'est vrai que c'est beaucoup du symbole. Mais est-ce que les gens vont
Est-ce que c'est pas important le symbole?
C'est très important, mais ce qui est très important, c'est aussi la réalité de l'emploi, la réalité sociale qui est derrière et des entreprises qui sont derrière. Si on prend un symbole massif des États-Unis, Disney, est-ce qu'on s'arrête du jour au lendemain d'aller à Disney alors qu'il y a 18 000 salariés qui travaillent chez Disney en France? Vous voyez, c'est vraiment de l'ordre du symbole. Donc, après, l'autre manière de faire, c'est la diplomatie économique. C'est qu'on va se renseigner sur place et on voit comment ça marche.
Est-ce que, avant d'entendre Daniel, Philippe Trénard, les droits de douane dont on va s'échanger, vous me prenez 25%, qu'à cela ne tienne, vous en aurez. Est-ce que au fond, c'est une forme de boycott de jouer sur les droits de douane?
Le boycott est quelque chose d'absolu. Souvenez-vous, on l'a appliqué avec succès contre l'Afrique du Sud. C'est d'ailleurs le seul cas d'application véritablement avec succès où on a remporté l'objectif, on a satisfait l'objectif qui était poursuivi. Sinon, effectivement, les droits de douane sont une forme de boycott puisque c'est une façon de dissuader les nationaux, les ressortissants nationaux, d'acheter d'un pays étranger qu'on veut boycotter, qu'on veut taxer.
Vous voyez, nos auditeurs, eux aussi s'interrogent et disent, c'est Catherine que j'ai là entre les mains et qui dit, moi je suis prête à boycotter des produits américains, mais je ne suis pas experte en la matière, je reste démunie face à la complexité de la situation. Et elle a raison, les choses sont complexes. Daniel, bonsoir.
Oui, bonsoir.
On vous écoute, Daniel.
Oui, alors, ben voilà, donc moi j'avais décidé de boycotter WhatsApp depuis assez longtemps, et puis j'avais, quand WhatsApp a changé ses conditions de, comment on appelle ça, ses conditions de confidentialité.
De modération ou de confidentialité, allez-y.
Voilà. Et puis en fait, je m'étais un peu trouvée sur une île déserte, donc du coup, je m'étais remise. Et puis avec l'élection de Trump et puis son entourage et les discours masculinistes, enfin de Zuckerberg, je m'étais dit non, c'est plus possible. Je vais boycotter WhatsApp. Alors moi, contrairement à certaines personnes, moi je pense que c'est efficace et dans la mesure où on est dans un régime capitaliste et où le pivot central de cette société capitaliste, c'est la consommation, je pense qu'on a vraiment un pouvoir citoyen en boycottant certains produits. Et donc, du coup, WhatsApp, alors d'autant qu'il existe des alternatives avec Signal, comme vous le signalez, c'est le cas de le dire. Et donc
Signal qui est américain aussi, mais plus vertueux en tout cas. La patronne d'ailleurs de Signal est plus vertueuse, absolument, qui est américaine aussi.
C'est quand même nettement plus vertueux, et puis ça vit en partie de dons des utilisateurs. Donc voilà, disons que il n'y a pas de publicité, donc effectivement c'est pas nous le produit quelque part sur Signal. Mais bon, je pense aussi, et puis moi je pense toujours quand même au discours de la servitude volontaire. Oui, effectivement, si on cesse de soutenir quelque chose qu'on n'approuve pas, et bien finalement, on a affaire à des colosses au pied d'argile, quelque part. Et je pense à Gandhi aussi, qui finalement a pu décoloniser, enfin, a pu, voilà, parce que un grand boycott a été lancé contre les produits anglais.
Ouais. À une époque, pardon Daniel, je vous interromps parce que je voudrais donner la parole à nos invités, à une époque, effectivement, évidemment, qui était bien différente, mais c'est vrai que la plupart des questions, Philippe Trénard, nous disent mais est-ce que ça peut à un moment avoir un véritable impact? Qu'est-ce qui peut avoir un impact? Est-ce que vous allez me répondre? Rien.
Oh, vous savez, les sanctions, de façon générale,
ça me ferait un peu de la peine.
Même les sanctions économiques ont peu d'impact.
Ouais.
Hein, 80% des sanctions qui ont été adoptées à une période récente ont eu un impact nul. Hein. En général, que ce soit sur les droits de l'homme, sur l'arrêt des guerres, sur le changement de régime, etc. Donc, il faut faire très attention parce que les boycotts comme les sanctions économiques, ça fonctionne comme vous êtes un rapport du fort au faible.
Mmh.
C'est-à-dire un pays isolé, démocratique, voulant s'intégrer dans le concert des nations, est très sensible à un boycott. Maintenant, un pays fermé, qui a de nombreux alliés, ben, ne va pas être du tout sensible. Hein.
Mmh.
Notez bien, par exemple, que sur les sanctions, presque la moitié, plus de près de la moitié des pays de l'ONU sont actuellement sous sanctions, et donc se sentent solidaires, n'est-ce pas, contre les sanctions. Non. Ce qui veut dire que l'efficacité des sanctions devient quasi nulle, comme on l'a vu d'ailleurs sur la Russie. Alors, je ne parle pas des boycotts. En outre, je crois que l'un des points importants, c'est que le boycott, il ne touche jamais le gouvernement.
Mmh.
Jamais. Ouais. Il va toucher des personnes, lambda, des citoyens comme madame, comme moi-même, qui éventuellement sont contre, d'ailleurs, par exemple, en l'occurrence, Donald Trump. Et donc, c'est eux qui vont être touchés. Et en plus, l'État, dans de nombreux pays, va faire tout le nécessaire pour les indemniser, si par hasard, ce sont des amis du régime. Par exemple, Poutine a indemnisé les oligarques, n'est-ce pas, contre les sanctions occidentales.
Dominique Carlac.
En fait, je suis d'accord avec ce qui vient d'être dit. En fait, on pourrait soutenir que Donald Trump, qui ne connaît que le langage de l'économie et du commerce, qu'à partir de ce moment-là, un boycott pourrait infléchir ses positions, puisqu'il ne connaît que ce langage-là. En réalité, on a démontré depuis le début de cette émission qu'on se fragiliserait nous-mêmes et on fragiliserait nos entreprises et nos économies qui sont totalement interdépendantes. Et je pense que depuis quelques semaines, il y a cette prise de conscience aux États-Unis aussi que des hausses de droits de douane à 25%, finalement, ça va augmenter la vie des Américains parce que les prix seront plus chers et que l'Américain, c'est aussi un électeur. Donc, quelles sont les voies qui peuvent marcher? Moi, j'en vois deux. Un, c'est pour préparer nos entreprises et nos propres ressortissants, c'est aller comprendre sur place, comprendre véritablement ce qui se passe et faire des alliances sur place et évacuer du champ politique. Et
faire des alliances sur place, c'est-à-dire d'une entreprise à l'autre, vous voulez dire?
En fait, sortir la politique de la partie économique et de la partie business. C'est une première chose. Et puis, d'autre part, c'est avoir une réponse européenne.
Pardon, mais ça ne gêne pas plus le gouvernement. J'ai pas bien compris ce que ça changerait si on faisait des alliances d'une entreprise à l'autre, de part et d'autre de l'Atlantique.
En fait, c'est à un moment donné se dire comment on travaille ensemble, indépendamment, comment désolidariser le sujet politique du sujet économique, en se disant, si on boycotte, on touche directement la vie économique et la vie sociale de notre pays. Et la deuxième chose, c'est avoir une réponse européenne. C'est de se dire, en fait, aujourd'hui, qu'est-ce qui attire aussi et qu'est-ce qui fait la force des États-Unis ? C'est qu'ils ont une énergie trois fois moins chère. C'est qu'ils ont une des marchés hyper attractifs sur le plan financier et qu'aujourd'hui, on a plus 100 milliards d'euros d'épargne qui sont européennes, qui sont parties vers les États-Unis et qui financent la dette américaine. Donc, si on pouvait avoir un réflexe européen d'unifier le marché des capitaux en Europe, d'une part, et d'avoir une vraie politique énergétique, on aurait plus d'indépendance et moins d'interdépendance. C'est ça que je...
Et j'entends ce que vous voulez dire. Et ce que la question que nous posent nos auditeurs, c'est de dire, mais moi, à mon niveau, est-ce que ça veut dire que je ne suis qu'impuissance ? En fait, on va essayer d'avoir la réponse et l'avis de Dalila là-dessus. Bonsoir.
Bonsoir.
On vous écoute.
Bon, alors nous, c'est une partie, un boycott beaucoup plus humble, car il s'agit de ne pas, tout simplement, de ne pas aller aux États-Unis. Nous avons l'habitude d'y aller quasiment tous les ans. Et avec l'élection de Donald Trump et ce qui se passe, nous avons décidé de ne plus y aller pour l'instant. Nous attendrons.
Dalila, merci beaucoup. Philippe Trénard, on comprend ce que ça veut dire. On peut aussi renvoyer effectivement l'argument qu'on renvoie depuis le début en disant les hôteliers, etc., ceux qui vont en pâtir, ce sont les Américains basiques comme Dalila, elle qui passe ses vacances. Mais néanmoins, est-ce que ça, c'est pas un chiffre qui s'affiche ? Je citais tout à l'heure en 2003, moins 18,3% d'Américains en France, au plus fort du début de la guerre du Golfe. Est-ce que ça s'affiche, ce chiffre-là ? Quels sont les chiffres qui s'affichent ?
Oui, il y a des chiffres qui peuvent s'afficher, notamment face à Trump, des chiffres comme le dollar, comme la bourse, comme les taux d'intérêt, ça s'affiche. Et d'ailleurs, c'est en train de s'afficher.
Le tourisme, ça s'affiche pas, comme Dalila, par exemple, ça s'affiche pas ?
Non, ça va moins s'afficher. Je crois que c'est ça, il faut être clair. Et je pense qu'il faut souligner un point par rapport à ce que vient de dire madame. Ce qui est important, c'est de maintenir des relations avec nos amis américains, parce qu'il y a beaucoup de gens aux États-Unis qui pensent comme nous. N'oublions pas, il n'y a que 51% des Américains qui pensent comme Trump et 49% qui pensent contre lui. Donc, quelque part, nous devons au contraire maintenir ces liens, maintenir des canaux, maintenir la discussion, aller aux États-Unis pour expliquer la position française, je crois que c'est très important. Et comme les États-Unis, jusqu'à nouvel ordre, restent une démocratie où on peut s'expliquer, je pense que le sujet est absolument important. De même, par rapport à Poutine et au gouvernement, de faire leurs travaux de menace. Il y a quand même une menace par rapport à Trump que nous pouvons signaler. Si Trump n'est pas intéressé par ce qui se passe en Europe, s'il n'a plus envie de protéger les pays auxquels l'Amérique a donné des garanties. Ça veut dire qu'il faut repenser toute la politique de sécurité dans le monde, réarmer l'Europe et remettre en cause un traité auquel les Américains tiennent beaucoup, qui s'appelle le traité de dénucléarisation, de non-prolifération nucléaire. Il faut nucléariser l'Europe et nucléariser l'Ukraine, naturellement. Ça, c'est le prix à payer. J'ai l'impression que Trump n'a pas vu que ça, c'est le vrai prix à payer. Et je ne suis pas sûr qu'il soit prêt à signer au bas d'un papier qui autorise la nucléarisation du reste du monde.
On a Alain qui nous dit ceci et qui ramène les choses, encore une fois, à des choses plus politiques et qui concernent les citoyens et qui nous dit, sans parler de boycott, la période peut être l'occasion de bouger vers des produits français et européens pour remplacer certains produits, de la tech ou pas, sans parler des voitures électriques, on peut remplacer EX par Mastodon, etc. etc. Est-ce que, et on l'a dit tout à l'heure, Dominique Carla, bien sûr qu'il y a une interconnexion de nos deux économies, bien sûr qu'il y a même une interconnexion de nos deux cultures, en fait, entre les États-Unis et nous. Mais est-ce que c'est pas le moment de re-réfléchir à ces modes de vie-là et s'interroger quand même sur la forme d'alternative, plutôt que de dire simplement, de toute façon, ça servira à rien.
Oui, et c'est ce que je tentais d'expliquer tout à l'heure. Oui, dès lors que l'on est prêt et qu'on a les solutions alternatives. Sauf que, est-ce que les entreprises, par exemple, aujourd'hui, sont prêtes à se passer de Microsoft au quotidien ? Est-ce que les Français et les Françaises sont prêts à se passer de leur iPhone au quotidien ou de leur iPad au quotidien ? Et je je pousse le raisonnement un peu plus loin, est-ce qu'ils sont prêts à renoncer à leur abonnement Netflix, là où Netflix est en train de financer massivement la production culturelle française et européenne, et où le mois prochain, il y aura Astérix qui sera programmé, et où on a même envisagé à un moment donné financer la série sur Léon Blum. Donc vous voyez, c'est difficile parce que effectivement, vous avez un choc de culture et la distinction à faire pour les Français, c'est de se dire quels sont mes choix. Est-ce que je continue à être abonné de Netflix pour financer la production culturelle française et européenne ?
Il y a Florence qui nous dit bien sûr qu'on risque d'en pâtir, mais nous saurons rebondir et nous nous prendrons en main. Une entreprise non américaine verra ses ventes augmenter et donc l'emploiera ceux des entreprises américaines en perte de croissance. Oui. Ce qu'elle est en train de nous dire, Florence, c'est qu'au fond, ce qui se passe en ce moment à l'échelle de l'Europe, avec l'échelle des pays européens qui se prennent en main parce que Donald Trump a décidé de ne plus financer un certain nombre de choses, et notamment l'Ukraine. Ce que nous dit Florence, c'est moi, à mon niveau, est-ce que moi aussi j'ai pas cette possibilité-là, en fait, celle de me prendre en main
Mais ça, que le consommateur décide qu'un produit qui a une forme américaine ne lui plaise plus, ça, je trouve ça tout à fait naturel. Et là, nous devons, et les entreprises françaises s'adapteront aussi à l'évolution du consommateur français. Je pense que ce qu'il faut par-dessus tout éviter, c'est que des consommateurs se mettent à boycotter des entreprises françaises parce qu'elles auraient acheté américain. Ça me paraîtrait tout à fait dommageable, surtout à l'économie française et dans notre rapport de pouvoir et de puissance vis-à-vis des États-Unis. Et n'oublions quand même pas, souvenons-nous que tous les grands pays, à part l'Afrique du Sud, tous les grandes dictatures qui sont tombées, comme la dictature communiste, elle n'est pas tombée parce que Solzhenitsyn nous a dit de ne pas livrer de blé à la Russie, elle est tombée parce que le système s'est effondré de l'intérieur, parce qu'il n'était pas capable de supporter la concurrence des économies capitalistes. Donc je crois qu'il faut plus travailler à la fois sur le plan diplomatique, probablement aussi, je pense, dans ces domaines, être un tout petit peu discret. C'est-à-dire, quand on porte un coup mortel à un ennemi, par exemple aux États-Unis, c'est pas la peine d'aller le dire sur toutes les radios, sur toutes les télévisions. Dommage, peut-être pour vous et pour votre émission. Mais je crois que c'est important. Il y a une politique internationale, une diplomatie du secret, il faut savoir la travailler de façon à laisser l'ennemi sortir aussi un peu tête haute et être prêt à accepter des concessions que sinon il n'acceptera jamais. Voyez Poutine, il n'est pas prêt à les accepter pour des raisons quasiment d'honneur.
Voyez les raisonnements de nos auditeurs, j'ai voulu livrer celui de Camille sur WhatsApp qui dit, contrairement à ce que dit votre invité, bien sûr que je suis prête à écouter les petits lus, les Tesla, ne pas aller à Disney ou ne pas utiliser Netflix, Windows et mon iPhone. De toute façon, dit-elle, mon pouvoir d'achat ne me permet pas d'accéder à tout ça. Bon, les employés européens des entreprises américaines boycottés retrouveront du travail dans l'économie de guerre dans laquelle Trump nous pousse. Alors je ne sais pas si c'est comme ça que ça se passera, mais je trouve intéressant que... simplement que le raisonnement de nos auditeurs et leur envie,
celle de Camille en tout cas, c'est ça. La seule limite à ce raisonnement, c'est que voulant pénaliser Trump et 50% des gens qui ont voté pour lui, en fait on pénaliserait directement nos emplois en France et ou en Europe. Donc ça c'est quand même un peu, à un moment donné, se mettre une balle dans le pied tout seul.
Allez-y, Monsieur Trainer, bien sûr.
Juste la toute petite question. L'Amérique reste une démocratie. Nous pouvons ne pas accepter que les électeurs américains aient élu Trump, mais ils l'ont élu. Donc, quelque part, vous avez un problème éthique. Est-ce que vous acceptez ou non, et est-ce que nous, Français, sommes légitimes d'accepter ou non les résultats d'une élection?
Que cela nous déplaise
et qu'on le manifeste un peu par notre comportement, c'est tout à fait naturel. Mais faut-il aller beaucoup plus au-delà, sachant que dans 4 ans, peut-être, les Républicains ne seront plus au pouvoir.
Et les deux limites de se replier finalement, en se disant ce qui est vertueux, c'est ce qui est fabriqué dans mon pays, avec des entreprises de mon pays. Les deux limites, c'est un, le prix à payer, c'est-à-dire le consentement à payer des consommateurs pour des solutions qui seraient éventuellement plus chères que celles qui sont conventionnelles sur le marché. C'est-à-dire que si je prends quelque chose de plus innovant, de nouveau, ça va peut-être être plus cher que des choses qu'on achetait habituellement. Voilà, ça c'est quand même une première limite. La deuxième limite, à nouveau, c'est se dire, est-ce que je ne pénalise pas, parce que 100% des...
Est-ce que je me tire une balle dans le pied?
100% des économies qui se sont repliées sur elles se sont toujours appauvries. Mmh. En fait, à un moment donné, ce qui enrichit et qui évite la paupérisation des populations, c'est quand même des économies ouvertes. Toutes les économies qui sont fermées aujourd'hui dans le monde, je ne suis pas sûre que ça soit un sort très envieux de leur population.
Le boycott est efficace, nous dit un auditeur, à partir du moment où il est largement suivi sur une période réduite. Et en effet, est-ce que pour être visible et avoir un sens, ça n'a pas plus de sens de se dire pendant une semaine, tout le monde arrête ça en même temps ? Donc le message, il est passé, plutôt que tout le monde dans une espèce de foule non identifiée.
Je ne suis pas sûr que ce soit lisible par Trump. Puisque si c'est un message adressé à Trump, je ne pense pas que ce sera lisible. Il est dans une politique plutôt isolationniste. Donc, au fond, qui essaye de s'opposer au reste du monde, n'est-ce pas ? Donc, je crois que là, c'est pas un message qui passera. Il dira, vous voyez bien, justement, quand je leur fais mal, parce qu'ils nous ont fait mal, eh bien, ils réagissent, et en plus, ils réagissent méchamment. Donc, je suis pas sûr que ça changera beaucoup chez Trump. En revanche, ça coupera des éléments de dialogue que nous avons actuellement avec les États-Unis. Ceci étant, je comprends que le consommateur puisse avoir des positions et qu'il puisse se dire, chacun individuellement, se dire, ben moi, je vais essayer d'acheter plutôt français. C'est peut-être les moments, effectivement, de refaire ses calculs économiques.
C'est un bon moment,
et ça, c'est sûr.
On a bien compris, et nos auditeurs aussi l'ont compris, c'est tellement un sac de nœuds. Enfin, je veux dire, à quel moment on se tire, nous, une balle dans le pied, ou on tire une balle dans le pied à des gens qui sont comme nous, dans le pays d'en face, qui ont aussi un pouvoir d'achat, une difficulté de pouvoir d'achat, qui ont voté d'un côté ou qui ont voté de l'autre. Et ça, pour le coup, vous avez raison là-dessus, c'est pas notre... c'est pas censé être
notre problème. On achète des produits chinois. Les consommateurs français achètent des produits chinois. Nous savons tous.
Il n'est pas une grande démocratie, c'est ça que vous voulez dire.
Nous savons tous ce qui se passe en Chine, ce qui se passe au Xinjiang, etc. Et j'allais dire, ce qui se passe aux États-Unis, même dans ses rapports avec l'Ukraine, n'a rien à voir. Nous sommes sur un événement d'une ampleur bien moindre, même si nous avons raison de nous en inquiéter.
Oui, mais ce qui est intéressant dans ce moment, en fait, c'est qu'effectivement, il y a quelque chose d'assez brutal dans un pays qui, effectivement, d'habitude, est un pays avec lequel nous avons des interactions qui sont beaucoup plus faciles. Et c'est ça qui, j'imagine, fait réagir de cette manière-là, parce que vous avez raison, on ne réagit pas sur les produits chinois et d'autres choses qui viennent d'ailleurs.
Exactement, parce que ça fait partie du corpus du rêve américain, c'est-à-dire le pays libérateur, le pays où tout est possible. Et puis d'un coup, on voit des idéologies auxquelles on n'était pas habitué.
Xavier nous a envoyé une note vocale et on va la découvrir ensemble.
Oui, bonjour, je ne comprends pas trop la proposition d'essayer de séparer en gros la partie économie de la partie politique. Surtout quand en face, on a un politique de la Trump qui est entouré de patrons d'entreprise. Donc ça me paraît un peu compliqué. Après, je vois peut-être l'idée derrière de pouvoir faire les choses sans règles et en dehors des normes, mais bon, sinon, je vois pas trop l'intérêt.
Comment faire lui nous dit, vous ne pouvez pas partager le politique et l'économique.
Non, mais c'est vrai que dans la théorie du réencastrement où l'économie rentre dans le politique, il y a bien sûr une raison, enfin, il y a du vrai, mais... il y a beaucoup d'effets de manche, il y a beaucoup d'effets de forme, de provocation. Mais au quotidien, qu'est-ce que ça veut dire tout ça ? Ça veut dire que ce sont des entreprises, ce sont des emplois. Les produits là dont on parle, tous ces produits un peu emblématiques, américains, qui renvoient à ce rêve américain, renvoient aussi à des productions et à des salariés derrière. Donc c'est là où on essaie de distinguer la théorie et l'idéologie et les prises de position de la réalité qui se cache derrière un caddie quand on va au supermarché.
Je
crois qu'il y a des divisions politiques. Et là, nous avons des intérêts politiques qui sont orthogonaux, c'est-à-dire opposés par rapport aux États-Unis, tels que les voit Donald Trump. Mais il faut bien voir quand même que l'économie, depuis l'origine, on pense l'échange comme quelque chose qui rapproche les hommes par-delà des différences de morale, donc de principes moraux, par-delà des différences politiques.
Absolument.
Et c'est un canal extrêmement important, non point pour éviter les guerres, parce que nous l'avons vu, qu'on n'a pas évité 14-18, etc., mais pour maintenir des canaux de discussion et quand même des voix, y compris à l'intérieur des pays auxquels on est opposé, qui vous défendent et qui défendent des solutions plus plaisibles.
Et la morale est une ligne de crête. En effet, c'est compliqué de savoir où on marche dans ce genre de concept. Là, voici Manuel qui est à Strasbourg. Bonsoir Manuel.
Bonsoir.
On vous écoute.
Je voulais faire remarquer qu'il y a énormément d'Américains qui ne soutiennent pas Trump, et ça se voit aussi parmi les grands patrons de la tech. Par exemple, il me semble bien que Bill Gates n'a jamais été aux côtés de Donald Trump, et donc il me paraît important d'envoyer des signaux très distincts et de soutenir les entreprises américaines qui ne soutiennent pas Trump, et de faire un distinguo entre toutes.
Merci beaucoup Manuel, et j'ai l'impression en nous écoutant tous, en écoutant les auditeurs, Dominique Carlac, que c'est aussi compliqué d'envoyer un signal à celle dont on dit ben merci parce que là vous allez dans une direction qui nous semble meilleure. C'est tout aussi compliqué de leur dire à elle que de dire à d'autres, oui, vous n'allez pas dans la bonne direction.
Oui, parce que qu'est-ce qui se cache en termes de théorie économique, en termes de logiciel économique dans la tête de Trump et de son establishment? C'est ce qu'on appelle les MAGA-nomics, c'est Make America Great Again, nomics pour théorie économique, qui se fondent sur quoi? Premièrement, simultanément, on fait du pro-business, on baisse les impôts, on déréglemente, et simultanément, on est pro-ouvrier, parce qu'on dit qu'il faut relocaliser. Et c'est toute une école de pensée qui s'adresse à la colère de l'Américain moyen. Et donc ça marche très bien. Et en mettant en lumière quelque chose qui n'a été ni réglé aux États-Unis, ni réglé en Europe, ni réglé en France, qui est la question économique trop longtemps laissée de côté, qui est comment on fait face au déclassement ou au sentiment de déclassement des gens. Et c'est extrêmement puissant.
Écoutez cette remarque de Séverine que je soumets à votre sagacité, que je trouve vraiment intéressante. Je suis étonné quand même que soudainement des consommateurs français veuillent boycotter des produits américains, alors que depuis des années, on sait que nous devrions essayer de consommer de toute façon filière française, locale, commerce équitable, etc. et que ça ne fonctionne pas vraiment.
Ça ne fonctionne pas parce qu'il n'y a pas le consentement à payer et que c'est difficile de se dire je consomme 100% français et j'en paye le prix.
Est-ce que vous avez le sentiment qu'on est un peu comme, j'ai envie de dire, à la période post-confinement, Philippe Trenard, en fait, où on espère une espèce de monde d'après, de sursaut d'après, de quelque chose d'après, au vu d'une situation géopolitique qui subitement nous saute à la figure comme elle nous a rarement sauté à la figure, en fait, et c'est ça que nous sommes chacun en train d'aller chercher, individuellement, alors collectivement auprès des politiques, bien sûr, mais aussi individuellement.
Non, mais individuellement, et on peut le comprendre, la façon dont Trump se comporte vis-à-vis de Zelensky, vis-à-vis des Européens, vis-à-vis des Canadiens, vis-à-vis des Mexicains, est absolument scandaleuse. Je ne parle pas vis-à-vis des Palestiniens de Gaza, où ça confine le grotesque. Mais je crois qu'il faut aller par-delà, parce qu'il faut aussi voir que Trump représente une certaine Amérique, mais en même temps que ceux qui ont voté pour Trump, je ne pense pas qu'ils ont voté pour que les États-Unis ne jouent plus aucun rôle au niveau mondial, que les États-Unis n'assurent plus la sécurité de l'Europe, que les États-Unis...
Chez les Trumpistes,
je pense quand même que les électeurs, en fait, quand on regarde tous les sondages, l'électeur de Trump, c'est un anti-woke. Voilà, c'est ça la motivation profonde et qui a fait un basculement d'une partie de l'électorat en faveur de Trump.
Enfin, pas seulement. Enfin, je veux dire, J.D. Vance lui-même, qui est vice-président aujourd'hui, disait, même depuis des années, et suivi par beaucoup de gens, de toute façon, ce qui se passe en Ukraine, on s'en fout, c'est pas notre problème. Ça a quand même été très, très.
Il peut y avoir une certaine. On peut imaginer que les États-Unis estiment que c'est un problème lointain. Ça, c'est une réalité géopolitique. Le seul vrai problème, le véritable problème aujourd'hui, c'est que les États-Unis se sont engagés à soutenir, l'Ukraine, l'ont soutenu et ne peuvent pas le lâcher. D'ailleurs, on voit bien que les lâchages américains en Afghanistan, au Vietnam, etc., se sont traduits par des catastrophes humanitaires par derrière.
Alors, on est d'accord là-dessus, on s'éloigne un peu de notre sujet.
Oui, pardon, mais
je ne suis pas sûr, on s'éloigne vraiment de notre sujet. Mais encore une fois, je ne suis pas sûr que l'électeur de base trumpiste ait choisi son vote en fonction de ce genre de choses, et surtout que ça le préoccupe réellement, Dominique Carlac.
Mais en tout cas, si on veut revenir à notre sujet de que peuvent faire les consommateurs et les auditeurs qui nous écoutent ce soir, on a bien quand même démontré que ce repli replier sur soi et trouver des solutions 100% made in France, ça ne marche pas. L'économie mondiale ouverte, c'est fini aussi. Et donc, il faut peut-être chercher la bonne taille du bocal. Et je je pense que c'est le continent européen. Nous sommes 450 millions consommateurs européens. Les Américains sont 300 millions. Donc déjà, on a 150 millions de consommateurs en plus. C'est là qu'il faut avoir un réflexe de construction européenne accéléré, parce qu'on a et l'offre et la demande sur notre continent. Et ça nous évitera le repli sur soi.
Voilà, donc, mais c'est aussi ce que disent d'ailleurs certains de nos auditeurs ici. J'ai perdu la question que je voyais à l'instant, mais voilà, c'est Fred qui nous dit l'appel au boycott n'est pas pour consommer 100% français, mais pour réorienter notre consommation vers des produits européens.
Absolument.
Et réorienter, Philippe Trénard, essayer de changer un certain nombre d'habitudes, lire certaines étiquettes.
Oui,
encore une fois, ça change pas la face du monde, mais au moins si chacun a besoin, si certains ont besoin du petit symbole qui dit quelque chose, peut-être que on.
Oui, donc là, ça peut être un symbole et ça peut être bon aussi pour soutenir l'économie française. Donc il faut pas non plus le négliger, n'est-ce pas, et nos entreprises en bénéficieront. Pour autant, il faut bien voir, comme disait madame, c'est que les économies sont étroitement imbriquées, beaucoup trop imbriquées, et vous n'arriverez jamais à désimbriquer les économies sans avoir des coûts, mais faramineux. Les coûts dont on parle de coûts de 20 à 30% du PIB.
Allez, il nous reste un peu de temps, mais on a du temps pour vous. Anne, bonsoir.
Oui, bonsoir Fabienne.
On vous écoute, Anne.
Je suis vraiment très contente de passer à l'antenne. Je suis binationale et je voudrais lancer un appel aux Français pour boycotter les produits américains dans la mesure du possible. Vous savez, il y a plus de 40 millions d'Américains qui vivent dans la pauvreté, qui sont des travailleurs pauvres. Donc un peu plus ou un peu moins, ça ne changera pas grand-chose pour eux.
Je trouve ça extrêmement raide ce que vous nous dites, Anne. Écoute,
pourtant c'est vrai.
Oui, alors certainement, mais enfin, bon, on ne souhaite pas non plus les voir par terre dans la rue.
C'est un cri du cœur, mais c'est malheureusement ce à quoi ça amène, le repli sur les frontières, ça amène à la paupérisation des populations.
Donc non, on ne va pas, pas aller jusque-là, c'est pas ce qu'on souhaite évidemment au sujet des Américains. Quid du risque de manipulation du dollar préconisé par son conseiller Miran, allusion à l'article du Monde de samedi, si vous l'avez lu, imposant entre autres à obliger à l'achat de bons du trésor américain par d'autres pays et ainsi gommer l'inflation, nous dit-il. Philippe Trénard, il y a beaucoup de questions sur le dollar et sur l'idée d'échanger différemment.
Écoutez, on a un premier problème quand même, je ne peux pas forcer les investisseurs français à acheter du dollar à travers les bons du trésor américain. C'est quasiment impossible. Alors, les banquiers centraux pourraient éventuellement en acheter un petit peu, mais ils ont quand même comme obligation constitutionnelle de ne pas laisser l'inflation se développer. Donc, je ne vois pas très très bien ce que nous pouvons faire dans le sens de ce que demande M. Miran. En tout cas, ça fait partie de ces objectifs de la politique de Trump qui ne peut pas être mise en œuvre par des discussions interétatiques dans une économie décentralisée. Éventuellement, avec Poutine, c'est une chose qui pourrait être discutée pour la parité du rouble, ça sûrement, mais pas pour la parité de l'euro.
Voilà, plus qu'un boycott, nous dit Gilles, il faudrait de vraies réorientations politiques de consommation locale dans une sobriété peut-être forcée en tout cas par l'inflation qui nous attend, participer pour ceux qui le peuvent à un impôt de sauvegarde national commun, car je pense que Trump ne fait qu'accélérer une chute sociale mondiale qui est déjà engagée. Est-ce qu'au fond, et ce sera notre dernière question, ce qu'il y a derrière cette discussion, c'est ça. C'est que Trump est un accélérateur aussi de beaucoup de choses, et y compris dans notre mode de consommation, dans notre mode de vie même, Dominique Carlac.
Oui, et c'est pour ça que, de la même manière, c'est une crise un peu massive politique cette fois-ci, qui n'est pas sanitaire comme il y a quelques années. On avait réorganisé les chaînes de production et de consommation en circuit beaucoup plus court à échelle interrégionale. Alors, il pourra y avoir des réflexes de chaînes de valeur interrégionales un peu plus solides qu'elles ne l'ont été jusqu'ici.
Allez, on
peut-être un petit mot. Je crois que l'Europe et les États-Unis sont en train de diverger progressivement, politiquement, et notamment sur les domaines de politique de sécurité. Il faut prendre note de cela et construire la politique européenne qui va avec cela.
Allez, ce sera la conclusion de cette émission. Merci à tous les deux et merci à tous pour vos très nombreux appels.